France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Imaginez-vous abandonné sur une île déserte, un bout de terre d'un kilomètre carré seulement, loin de tout. La côte la plus proche est à 500 km. Vous n'avez rien ou si peu pour manger ou vous mettre à l'abri et vous devez survivre. Alors ce n'est pas Koh-Lanta, non, c'est ce qui est arrivé à des esclaves malgaches au XVIIIe siècle. Un épisode dramatique de l'histoire maritime française qui nous est raconté dans une exposition qui s'ouvre aujourd'hui au Musée de l'Homme à Paris. Bonjour Thomas Romond.
Bonjour.
Vous êtes archéologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, et vous êtes également commissaire scientifique de cette exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés. Alors c'est une page importante, hein, je le disais, de l'histoire maritime française. Nous sommes en 1761 dans l'océan Indien. Vous nous racontez la suite ?
Oui, donc c'est un bateau qui est arrivé de Bayonne, un bateau de la Compagnie des Indes, et qui est envoyé à Madagascar pour aller chercher justement des provisions, du riz et du zébu, et qui, malgré l'interdiction d'embarquer des esclaves, fait de la traître, embarque des esclaves, et à son retour s'échoue sur cette petite île, l'île de Tromelin, qui fait 1 km².
Et alors certains sont morts dans le naufrage, d'autres arrivent sur cette terre, et ils vont réussir, pour certains, à s'enfuir avec un bateau, c'est ça ?
Oui, donc le bateau fait naufrage. L'équipage français, à peu près 120 hommes, regagne la terre. Les esclaves qui étaient dans les cales, pour une grande partie décèdent, mais à peu près 80 gagnent l'île. Et effectivement, une des premières actions, il n'y a rien sur cette île, et une des premières actions est de creuser un puits et donc d'obtenir de l'eau pour assurer la survie, puis construire un bateau pour repartir, échapper de cette île, mais ce bateau est trop petit et seuls les marins français repartent, abandonnant donc les naufragés malgaches sur l'îlot.
Et ils sont combien là à rester sur l'île ?
Probablement autour de 80.
Et donc là c'est un calvaire de 15 ans qui va débuter, comment ils ont fait pour survivre ?
Alors comment ils ont fait pour survivre ?
Ça c'est le travail que vous avez découvert, votre travail d'archéologue.
Absolument. En fait, une fois les Français repartis de cette île, plus d'informations dans les archives, et c'est alors le travail de l'archéologie de mettre au jour les vestiges archéologiques justement pour documenter cette survie sur cette île. Ce qu'on a pu montrer à travers ces vestiges archéologiques, c'est d'une part ce qu'ils ont consommé pour se nourrir évidemment. Mmh. Donc surtout des oiseaux, des tortues et des poissons évidemment, la faune qui est accessible sur cette île.
Et ça vous l'avez vu comment ?
C'est les restes de consommation qu'on retrouve dans les niveaux archéologiques, donc ce qui a été consommé et rejeté dans la nature. Mmh. Ensuite, ils ont dû se mettre à l'abri, se protéger, parce que l'île de Tromelin est dans l'océan Indien.
Elle est toute plate, hein, elle est minuscule, 1 km², c'est vraiment un bout de terre.
C'est ça, mais surtout, est soumise au régime des cyclones, et régulièrement, à peu près tous les ans, de grosses tempêtes tropicales, et voire de cyclones, balayent cette île, et ils ont dû se construire des abris véritablement solides pour se protéger, et donc simplement en empilant des pierres, des blocs de corail, pour se mettre à l'abri.
Il y avait quand même 2-3 pierres, quoi, c'est ça?
Oui,
bien sûr,
il y a même énormément de ouais. Galets de corail sur les plages de cette île, oui.
Et donc ils ont fait quoi? Il y avait un gros abri, des petites maisons, ça ressemblait à quoi en fait?
C'est beaucoup de petites maisons qui sont empilées les unes sur les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à Madagascar, la pierre est réservée pour construire les tombes, les maisons des morts. Et alors que pour les vivants, c'est plutôt les matières périssables comme le bois par exemple ou les briques de terre crue. Et donc sur cette île, ces naufragés se sont adaptés en utilisant la pierre, donc normalement réservée aux morts, pour construire des abris pour eux encore vivants.
Il faut dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix non plus.
Non, ils n'avaient pas tellement le choix et il fallait qu'ils se mettent à l'abri effectivement.
Et ils n'ont pas tenté de fuir, eux aussi de fabriquer des bateaux pour essayer de partir ?
Si, donc une partie de ces naufragés ont tenté de quitter l'île, ont construit un radeau pour s'échapper. On n'a pas de nouvelles d'eux, probablement qu'ils ont péri en mer.
Et comment ont-ils été sauvés alors ?
Donc c'est 15 ans plus tard... Après plusieurs tentatives, la troisième tentative qui réussit, une tentative réalisée par le chevalier de Tromelin.
Donc, d'où le nom
oui,
de l'île Tromelin.
Enfin, en tout cas, c'est ce nom-là qui a été donné à l'île après. Et donc ce personnage qui a la présence d'esprit d'apporter avec lui une pirogue et donc un engin de navigation local pour et qui lui permet d'aborder l'île et de pouvoir récupérer les rescapés.
Et tout ça, donc, vous l'avez appris par les fouilles archéologiques. Il n'y a pas de récit.
Alors, il y a
ces hommes après qui ont été sauvés. D'ailleurs, c'est pas des hommes, non, c'était quoi? Il restait 8 personnes, c'est ça?
Voilà, il restait 7 femmes et un enfant.
7 femmes et un enfant.
Et donc, ben, c'est en fait recroiser à la fois les quelques sources qu'on a du témoignage de ce sauvetage avec les données archéologiques, effectivement.
Moi, ce que je trouve formidable dans les recherches que vous avez menées, c'est que vous avez découvert aussi qu'ils avaient fabriqué des bijoux.
Oui, alors donc
quelque chose de futile. On pourrait penser qu'ils ont besoin d'outils, de choses pour survivre. Ils ont le temps de fabriquer des bijoux.
C'est ça. Ça a été une surprise. En fait, oui, ils sont restés 15 ans quand même sur cette île. Mais notre surprise, c'était que la plupart des objets qui sont fabriqués par les naufragés sur cette île, ce sont des objets utilitaires. Que ce soit des haches, des assiettes pour manger, mais également effectivement, ils ont pris le temps de fabriquer des bijoux, donc des petites chaînettes, des bracelets, avec les matériaux qu'ils ont pu récupérer sur l'épave, en particulier du cuivre, des plaques de cuivre.
Il y avait quand même des choses qui venaient de l'épave alors.
Oui, en fait, c'était la principale ressource sur cette île, c'est l'épave. D'une part, le bois qui leur a donné la matière pour la combustion et pour avoir du feu pendant ces 15 ans, mais également la matière première, du cuivre, des clous en fer, du plomb.
Il y a encore des choses à découvrir, des fouilles à mener sur place, ou ça y est, là, vous avez éclusé la chose?
Alors oui, il reste du travail à effectuer sur place, mais la véritable problématique, c'est que l'archéologie détruit au fur et à mesure qu'elle découvre le matériel, et je pense qu'à un moment, il faut savoir dire stop, et travailler sur l'information qu'on a sortie avant de tout détruire.
Alors là, je le disais, il y a une exposition qui nous raconte cet épisode historique, exposition au Musée de l'Homme à Paris. On voit quoi exactement?
Donc cette exposition, oui, au Musée de l'Homme à Paris, est 3 pièces. Une première pièce qui présente un peu l'aspect historique et le contexte historique de cette histoire.
Donc la traite négrière,
la Compagnie des Indes, ce que font les Européens dans l'océan Indien. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est très 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 documenté par les archives. Puis une seconde salle qui parle véritablement de ce séjour de 15 ans des naufragés et donc qui présente les résultats archéologiques.
Ça, c'est votre salle. Hein.
Ça, c'est ma salle, effectivement. Et voilà où on peut présenter, on peut montrer au public les quelques vestiges qu'on a mis au jour sur cette île et surtout les faire parler et expliquer qu'est-ce que ces vestiges nous racontent de ces naufragés.
Et la troisième salle?
Et la troisième salle, donc la suite après le sauvetage des naufragés et l'évolution des mentalités, notamment en France et pour aller vers l'abolition de l'esclavage quelques années plus tard avec la Révolution française.
Aujourd'hui, il y a quoi sur cette île?
Alors, jusqu'il y a quelques années, c'était une station météo parce que l'île de Tromelin est un endroit stratégique pour étudier les cyclones, la trajectoire des cyclones dans l'océan Indien.
Elle est au nord de la Réunion. Hein,
ouais. Donc à peu près à 500 km à au nord de la Réunion et 500 km à l'est de Madagascar. Et donc il y avait une station météo et c'était le personnel de Météo France qui représentait la France sur cette île française. Aujourd'hui, évidemment, avec les satellites, la météo n'a plus trop de raisons d'être et donc il y a encore des capteurs automatisés, mais aujourd'hui ce sont le personnel des Terres australes et antarctiques françaises qui sont présents sur l'île et qui assurent la présence française sur cette île.
Et ils restent longtemps? Leur mission, ça dure longtemps? Ils font comment?
Leur mission dure entre 45 et 50 jours, puis
d'accord,
ils sont relevés.
Et il y a des ravitaillements réguliers?
Des ravitaillements donc tous les mois et demi à peu près assurés par l'armée de l'air. C'est aujourd'hui le principal moyen d'atteindre cette île et surtout d'en repartir.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Thomas Romond. Je rappelle que vous êtes archéologue à l'INRAP et commissaire scientifique de l'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés. L'exposition qui a à voir à partir de ce matin et jusqu'au 3 juin. Et je précise qu'il y a des visites spéciales pour les enfants, pour les non-voyants. Il y a des jeux, des conférences. Vous saurez tout de cet épisode historique. Merci beaucoup d'être venu dans le 5-7 de France Inter ce matin.
Merci à vous.